Vous êtes un artiste autodidacte, vous écrivez et interprétez vos propres chansons. Comment vous êtes venu cette passion pour la musique ?
Quand j'avais 14-15 ans.
Voilà.
Je faisais de la musique, je chantais un peu pour moi, pour mon plaisir, sans jamais rêver à ce que ça puisse un jour devenir un métier. Même pas, je m'autorisais même pas de rêver à ça. Donc, Et puis un beau jour, à l'âge de 15-16 ans, j'ai eu un concert d'un groupe à la télévision, particulièrement U2, voilà. Et je suis tombé amoureux de la musique, de leur musique et de les voir jouer sur scène. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à jouer d'un instrument. Et j'ai voulu apprendre à jouer de la batterie. Ça a commencé comme ça pour moi. Je me suis mis à la batterie. Puis après, progressivement, j'ai changé pour pouvoir m'accompagner, chanter et pouvoir jouer des chansons. Parce que chanter sur une batterie, c'est moyen. Voilà, tout seul. Et puis pouvoir m'accompagner seul et chanter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare.
Du YouTube au début, quoi.
Au début, c'était essentiellement parce que j'avais envie de devenir batteur de YouTube, mais c'était déjà pris, donc c'est pas possible.
Il y avait déjà quelqu'un. Vous êtes né à Sarcelles et vous avez étudié à l'université Paris 8 à Saint-Denis.
C'est ça.
Et vous avez appris la musique seul, donc. Et en quoi la banlieue vous a aidé, ou non d'ailleurs, à l'apprentissage de la musique ?
Elle m'a aidé en rien du tout.
Ouais, en rien.
Absolument rien.
C'était un frein ?
Hormis peut-être me mettre des bâtons dans les roues, en fait.
Ok.
Voilà. Parce que je suis né dans une ville où, étrangement, tout ce qui faisait de la musique faisait du rap.
Ouais.
Ou du rap.
Ouais.
Voilà. Et les rares personnes qui faisaient autre chose, c'était limite, on voulait pas l'entendre parler.
Okay.
Et moi, j'ai rencontré un groupe qui faisait du, à l'époque, metal fusion hardcore.
Mm-hmm.
C'était peut-être le seul groupe qui en faisait dans Sarcelles. Et en fait, c'était à l'époque où des groupes comme Rage Against the Machine sont sortis, tu vois. Donc, il y avait des mecs qui avaient un flow de rappeurs, en fait, mais sur de la musique metal, tu vois. Ouais, on appelait ça le fusion à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare électrique dans un groupe comme ça.
Ouais.
Et où ça chantait en anglais, les mecs étaient très bons, et puis j'étais avec des potes qui vraiment m'ont donné envie de développer tout ça, et puis j'étais un peu le seul mec de ma bande à faire autre chose que du rap. Donc je me suis rapproché de ces mecs-là, et puis j'ai commencé à jouer. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, t'as envie de chanter en fait. Donc pourquoi tu te prives de le faire ? Fais-le. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, et progressivement, il m'a fallu du temps, mais j'ai accepté le fait que j'avais peut-être une chance, une carte à jouer. Parce qu'étrangement, la banlieue m'a beaucoup freiné. Voilà. Étrangement, ça m'a beaucoup freiné. J'étais dans une bande, j'étais dans un endroit où, je vais pas dire une bande, parce que ça fait d'un coup délinquant, c'était pas du tout ça. Au contraire, c'était bien le contraire. Mais c'est juste que j'étais dans un endroit où les mecs qui faisaient de la musique, ils faisaient du rap.
Ouais.
Et les mecs qui faisaient du sport faisaient du football. Ou du basketball, voilà. Moi, j'ai joué dans des groupes de rock et je faisais du hockey sur glace. Juste pour faire chier les gens.
Voilà. Pour pas être comme les autres, quoi.
Exactement.
Ouais, ok. Les bâtons dans la roue, c'est pour avoir des gens qui jouent avec vous, et c'était ça.
Non, mais c'était pour les bâtons dans les roues. Quand je te dis ça, c'est que on me prenait pas au sérieux, en fait. Voilà, on me prenait pas au sérieux pour un mec que de banlieue, d'origine maghrébine, tu vois. C'était genre, ah, tu fais du rap, non, ah, tu dois faire du rail alors.
Ouais.
Non plus. Non. Bah, t'es DJ alors. Non plus.
Non.
Juste dans un groupe de rock, metal, fusion, et je joue de la guitare électrique et je chante aussi. Et à la fin, j'ai envie de rajouter, je t'emmerde. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais rattrapé par mon passé. C'est-à-dire que je mixe maintenant. Mm. Je suis aussi DJ. À l'époque, je ne voulais pas l'être parce que je trouvais que c'était très réducteur, que c'était un vrai cliché de banlieusard de dire que je suis DJ. Aujourd'hui, que je me suis, complètement, je me sens beaucoup mieux avec plein de choses aujourd'hui. Et puis, tous ces clichés me font rire aujourd'hui. Et puis maintenant, bah, écoute, j'aime bien les clichés.
Ouais.
Voilà.
C'est devenu marrant, quoi.
C'est devenu marrant pour moi. Mais en fait, j'ai toujours aimé me surprendre moi-même et de manière indirecte, surprendre les autres aussi. C'est pour ça que je fais de la musique aussi. C'est une vraie liberté pour moi. Je conçois mal la musique comme étant un truc réducteur où il faut faire ce que les gens attendent de toi. Donc, je vais là où on m'attend pas. Voilà.
Mais au final, la banlieue, ça a été une force, en fait. Parce que du coup, avec tous ces clichés que vous avez rencontrés, le but à la base, c'était de sortir de ça, etc. Donc,
quelque part, j'ai envie de remercier les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, parce que sans s'en rendre compte, ils m'ont aidé, en fait, à avoir cette force-là qui m'a donné envie vraiment de me battre et de lutter contre tous ces clichés-là, en fait. Hein. C'est con à dire, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment... je vois à l'époque... en fait, si tu veux, j'ai quitté la fac pour entrer dans une école de musique. Une école de musique où il y avait concrètement pas du tout des mecs comme moi. C'est-à-dire...
C'est-à-dire de mecs qui arrivent
de banlieue, tu vois, d'une ville comme Sarcelles, tu vois, et qui sont d'origine, tu vois, étrangère.
L'école de musique, il n'était pas en banlieue, lui ?
Pas du tout, c'était à Paris.
Okay.
Et ça s'appelait les Studios à Lisdona. Et j'étais un peu le seul mec qui avait ce profil là dans mon école. Et écoute, j'ai pas arrêté quoi, je me suis battu, ça a duré un an, j'étais non-stop là, j'étais en cours. En même temps, moi j'avais des journées un peu étranges. Je me levais à 4h15, je prenais le train à 5h05 à la gare de Sarcelles-Saint-Brice. Vous connaissez sûrement, qui passe par Épinay-Villetaneuse, voilà. Et je faisais Sarcelles-Saint-Brice jusque Disneyland Paris, à 5h du mat. Pour y travailler, je bossais à Disneyland Paris, à 7h du matin, je faisais des trucs très étranges. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelait les caractères. Je faisais Balou, Dingo,
ah oui.
Capitaine Crochet.
Très bien.
Voilà, je faisais ça tous les matins. Je faisais ça tous les matins et puis après j'allais à midi, je partais de Disney, j'allais dans mon école de musique qui était à 13h. Qui commençait à 13h, pardon, c'était à Bercy à l'époque. Et de 13h jusqu'à 18h, je bossais dans mon école de musique. Et à 18h, j'étais barman juste à côté, j'étais barman jusqu'à minuit dans un bar à côté. Donc je prenais le dernier train de la gare du Nord à minuit 45 pour arriver chez moi vers les coups d'une heure et demie du matin. Et je recommençais le lendemain à 4h15. Tu vois, genre, je dormais en gros 3h par nuit. Ça a duré un an. Et au bout d'un an, j'ai décroché mon premier contrat dans la musique. Et là où personne m'attendait, ça a été les 10 commandements de Pascal Obispo. Voilà, ça a commencé comme ça pour moi. J'ai cravaché pendant un an, mais au bout d'un an, j'ai décroché mon premier contrat et j'ai pu arrêter après. Les 10 commandements, Pascal Obispo, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock. J'ai chanté avec Céline Dion, j'ai chanté avec plein de gens très différents, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait plein de trucs. Voilà. Mais c'est vrai que si la banlieue m'a aidé, c'est parce qu'à Madeline Force, que peut-être j'aurais pas eu si j'étais né peut-être dans un quartier sympathique comme celui-ci de Paris, où ça m'aurait peut-être pas donné autant de hargne. J'ai pas à dire de hargne parce que je suis pas. Tu vois, j'étais pas comme ça, mais j'ai envie de faire mes preuves peut-être plus que les autres.
Ouais.
Voilà. Parce que j'avais le sentiment qu'on me donnait pas ma chance.
Pour avoir ces rôles dans les comédies musicales que vous avez, parce que vous en avez fait plusieurs, le Duc de Beaufort dans Le Roi Soleil par exemple. Comment on fait pour obtenir ces rôles-là? Le casting
C'était très simple, j'ai passé des auditions.
Ouais.
Voilà. Je pense que j'aurais pas pu atteindre ces auditions-là, toucher du doigt ces auditions-là, si je n'avais pas quitté mon monde de la banlieue pour entrer dans cette école de musique sur Paris. Mmh. Voilà.
Trouver cette école où vous avez été, vous avez trouvé ça comment
Comment ça s'est passé? J'étais à la fac, donc
Paris 8.
De Paris 8 à Saint-Denis, et puis j'ai été voir un spectacle qui s'appelait Notre-Dame de Paris, au Palais des Congrès. Et puis je suis tombé amoureux de ce spectacle-là, et je me suis dit, il faut qu'un jour dans ma vie, je fasse un spectacle dans le genre. Voilà. Et puis je m'étais acheté un programme, tu vois, le petit programme là, tu vois, que tu t'achètes quand tu vas voir un spectacle. Et dedans, il y avait une petite bio de plein de chanteurs qui étaient dedans. Et souvent, dans leur bio, il y avait écrit élève des studios Alice Denard, qui était une école de musique qui se ressent Paris. Et je me suis dit, il faut que je me renseigne. Qu'est-ce que c'est que cette école de musique? Et puis je me suis encardé, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, donc il fallait acheter un annuaire du spectacle, tu vois, genre pour savoir qu'est-ce que c'est que les studios Alice Denard.
À 2 euros.
2 euros?
2 euros, je crois.
Ça coûte super cher.
Ah ouais?
C'est un calepin comme ça. Parce ça
que mamie, elle avait ça à l'époque.
L'annuaire du spectacle?
Ouais.
Ça coûte pas 2 euros, je te promets.
Ah non, c'est l'envoyé. C'est les...
Oh non, non,
c'est
non. Ah ouais, non, non.
C'est pas pareil.
L'annuaire du spectacle, ouais. C'est un truc qui te coûte. Aujourd'hui encore, je crois que ça doit coûter genre 30 euros.
C'est un bottin, le truc.
Ouais, c'est un bottin, mais qui coûte cher.
Okay.
Tu vois, donc, et donc, je me rappelle ne pas l'avoir acheté, évidemment, parce que j'avais pas les moyens.
Uh-huh.
Je suis parti à la Fnac, j'ai trouvé dans les rayons, j'ai cherché l'adresse, j'ai trouvé les studios Alice Denard. J'ai écrit, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres. Voilà. Mm-hmm. Donc, j'ai écrit une lettre en leur demandant quand est-ce que se déroulent les auditions, j'aimerais passer les auditions pour l'année prochaine. Ils m'ont répondu, j'y suis allé, et j'ai été pris. Et 9 mois après, j'ai décroché mon premier contrat, donc c'était plus cool.
Je sais pas quelle église sonne très fort là.
Là, ici, là.
Ouais.
Étienne Dorf. Voilà.
On est à côté de l'église Étienne Dorf donc.
Dorf.
Étienne Dorf. Bon, je connais pas, mais c'est pas loin.
De... À côté de Mogador et du Casino de Paris.
Voilà. Et à côté des bureaux où travaille Aaron Rim.
Voilà.
Les projets qui arrivent.
Les projets. Je viens de sortir mon nouveau single qui s'appelle Si c'était moi. Mon nouvel album arrive au mois d'avril 2016. Je viens de faire une musique de film. Et je fais le doublage de la voix principale du personnage qui s'appelle Junior dans un film qui s'appelle Worms. C'est un film d'animation brésilien coproduit par TV Globo, qui est l'équivalent de TF1 au Brésil, et la Fox aux États-Unis. Sorti au Brésil, c'est sorti aux États-Unis et ça vient de sortir en France. Ça s'appelle Worms, c'est au cinéma en ce moment. Que te dire d'autre? Je fais plein d'autres choses. Je fais des musiques de films, j'écris pour moi, pour d'autres. Je fais de la musique électronique aussi.
Ouais.
Je tourne pas mal avec une formation de musique électronique, et puis j'ai, je bosse pas mal avec des gens de ce milieu-là aussi, donc ça se passe pas mal, je fais plein de choses très différentes.
Merci Merwan Rim. On rappelle bien sûr que l'album d'avant, L'Échappée,
ouais,
qui est sorti en 2012, est encore disponible avec des titres comme
Vous,
Belle Inconnue, que j'aime beaucoup.
Mens-moi. Voilà, etc. Un nouveau jour. Et l'album s'appelle, le prochain album s'appelle Traverser la nuit, et ça sort, voilà, printemps 2016. Donc voilà.
Merci beaucoup. Donc quand on vient de banlieue, on peut se battre, on peut rêver.
Exactement,
et
on a le droit de rêver.
Et il faut se battre quand même, mais on peut y arriver.
Voilà.
La banlieue est aussi une force.
La banlieue est aussi une force.